Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Jean-Louis Bourlange, essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser au mouvement social. Dirigé contre la loi travail, le mouvement social animé par une intersyndicale réunissant notamment la CGT et FO se durcit incessamment, tout en étant débordé sur sa gauche dans plusieurs cas de figure. Blocage des raffineries et des dépôts de carburant, menace sur la production des centrales nucléaires, grève à répétition à la SNCF, annonce d'une grève illimitée à la RATP à partir de jeudi prochain, entrave à la parution des quotidiens qui ont refusé de céder aux exigences de la CGT, autant d'exemples de ce durcissement. C'est un fait que les violences émaillent désormais systématiquement les manifestations, au point que les prétendus débordements apparaissent pour le moins prémédités, écrit Éric Dupin sur Slate.fr, et il ajoute « Les idées de provocation policière ou d'une violence qui serait indispensable au changement de l'ordre établi paraissent plus que jamais populaires, sans être aucunement prouvées. » Fin de citation. Une vidéo de policiers passant à tabac un étudiant lors du blocage d'un lycée le 24 mars dernier a été visionnée des milliers de fois sur le web. À cette vidéo en répond une autre, qui montre une bande de casseurs tentant de brûler une voiture de police en marche et donc occupée, filmée lors d'une manifestation de policiers dont le mot d'ordre était « Stop la haine anti-flic ». Un manifestant non-violent a perdu un œil dans un tir de lanceur de balles de défense et l'inspection générale a ouvert 29 enquêtes sur les violences policières, tandis que syndicats et ministres rappellent que 360 policiers ont été blessés depuis mars. Le mouvement Nuit Debout, né après la journée de mobilisation du 31 mars, qui prônait la non-violence et le dialogue, est devenu sensible à des arguments en sens contraire. Le quotidien Reporter note que lorsqu'un orateur a déclaré dans un débat sur la violence, il ne faut pas poser la question de la violence sur le plan moral, mais comme une question stratégique, les prises de parole qui ont suivi n'ont guère mis en cause ce point de vue. Les heurts ont par ailleurs été nombreux aux abords des places occupées par ce mouvement dans différentes villes et des interpellations régulières ont lieu, dont une cinquantaine pour la seule nuit du 28 au 29 avril. Sous le quinquennat de François Hollande, de nombreux corps de métier se sont fait entendre en manifestant de manière violente, les taxis dont certains s'en sont pris à des chauffeurs de voitures Uber, les bonnets rouges bretons contre les cotaxes et ses portiques, les éleveurs en février. Le sociologue Éric Neveu soulignait alors que, je cite, « plus les actions sont agressives, plus ça monte dans les pages de la presse locale puis dans les médias nationaux. Sans violence, la presse nationale n'en parle pas ». Et il ajoutait « le calcul des organisateurs n'est donc finalement pas absurde ». Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois qu'il est très clair que la grève telle qu'elle se développe actuellement, la grève ou les mouvements tels qu'ils se développent actuellement, ont juridiquement un caractère de grève insurrectionnelle, comme on en a connu à d'autres moments, avec une efficacité plus grande et des relais politiques et syndicaux plus forts, par exemple à l'issue de la... du deuxième conflit mondial, les grèves insurrectionnelles de 47-49, dont je tiens à rappeler tout de suite que celui qui en est venu à bout, après le président Ramadier, c'est le président Queuil. Le président Queuil, qu'on présente souvent comme une sorte de président sans énergie, etc., a triomphé par son opiniâtreté des comportements extrêmement belliqueux de la CGT de l'époque. Je souhaiterais que le
tout
président Hollande...
avec un autre élu corrézien,
oui, je souhaiterais que le président Hollande fasse preuve de la même énergie que le président Queuil, dont on moque à tort l'absence d'énergie. Là, donc, le caractère insurrectionnel, il est évident, par les buts de la grève, il s'agit de faire plier le pouvoir politique et non pas de défendre les intérêts de qui que ce soit, de modifier par la force le rapport de force syndicale. Il s'agit par les moyens, on bloque un certain nombre d'activités, la liberté de circuler, notamment dans, par exemple, le blocage du port du Havre pendant la zone industrielle du Havre pendant une semaine. On bloque les accès aux sources d'énergie. Enfin, tout un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec la grève stricto sensu. En plus, un syndicat qui n'est pas vraiment représentatif. Et finalement, on en vient à travers ça à mettre en cause des libertés. la liberté de transport, de circulation, la liberté de la presse, à travers ce qui s'est passé la semaine dernière, avant-hier, jeudi, au sujet de avec le blocage de tous les journaux qui n'avaient pas voulu insérer le communiqué de la CGT. Donc on est dans une situation extrêmement grave et je dirais, mais avec une volonté de moduler mon propos, également le Parlement, puisque c'est un syndicat faiblement représentatif qui défie effectivement la représentation nationale telle qu'elle ne s'est pas exprimée dans le cadre du 49-3. Alors, face à cela, le gouvernement est confronté à plusieurs hypothèses. Je crois qu'il faut comprendre d'abord quel est le rapport de force et quels sont les enjeux. Le rapport de force, il est... ce sont deux faibles qui s'opposent. Le gouvernement d'un côté, la CGT, ce sont deux acteurs aux abois, deux acteurs en difficulté. La CGT, c'est pas la peine de faire un dessin, elle est en crise profonde, on voit très bien ce qui s'est passé à travers les récents événements, le changement du secrétaire général, la défiance croissante au sein de l'organisation, l'échec de la grève SNCF il y a un an ou deux, le fait qu'elle est contestée partout dans le secteur privé par la CFDT, donc on voit bien que c'est une centrale aux abois. Mais le gouvernement est faible, et le gouvernement est faible de sa faute. Parce que ça, je l'avais dit ici, quand j'avais parlé, vous en souvenez, Thierry, d'affaire El Khomri, Emmanuel Le Chip dit depuis le Barnum El Khomri, je crois que c'est une bonne formule, la loi El Khomri, qui n'est pas populaire, elle n'est pas populaire pour quelle raison ? Elle n'est pas populaire parce que le gouvernement s'en est pris simultanément aux salariés, aux syndicats et au Parlement, à sa majorité parlementaire. Or, pour gagner ce type de bataille, il fallait dissocier stratégiquement, il fallait certainement repousser le pouvoir syndical tel qu'il était conçu par la CGT, mais il fallait en revanche ne pas mettre en cause un certain nombre de choses chez les salariés. Par exemple, et je vois que cette chose que j'avais signalée il y a longtemps reparaît maintenant comme solution de compromis, ne pas remettre en cause la surrémunération des travailleurs entre 35 et 39 heures. On pouvait mettre en cause les 35 heures comme durée normale du travail, mais ne pas remettre en cause le fait d'avoir une surrémunération au-delà des 35 heures. On aurait repris là le travailler plus pour gagner plus, ce qui, à mon avis, était un bon slogan de Sarkozy. Donc, on s'est allié de ça. Sur le Parlement, on a fait le 49-3. Donc, on a vraiment humilié la représentation parlementaire. Et donc, le syndicalisme a eu, la CGT a pu s'appuyer sur cette espèce je ne parle pas des conditions très maladroites dans lesquelles on a présenté une bonne réforme, qui était la réforme du droit de licenciement. On l'a présentée comme une machine à créer des emplois, alors qu'il fallait la présenter comme une machine à fabriquer de la sécurité, à éviter l'arbitraire. C'était l'arbitraire des tribunaux, ce qui était tout à fait possible, ce que Macron a fait un moment, mais ce que Valls n'a pas fait. C'est-à-dire de dire, un salarié licencié aujourd'hui, il reçoit de 1 à 15 en termes d'indemnité, selon le tribunal sur lequel Philippe me fait signe, à juste titre, que je suis un peu long. Les enjeux, maintenant, juste deux mots, l'enjeu, c'est un enjeu purement syndical, ce n'est pas un enjeu sur la loi. La loi, plus personne, elle est très abîmée avec ces trucs sur la franchise, etc. C'est de savoir si les syndicats réformistes et donc derrière la social-démocratie ou le social-libéralisme vont être humiliés par une capitulation du gouvernement devant la CGT ou non. Eh bien, en face, nous sommes en face de ce dilemme et le moins qu'on puisse dire, c'est que Manuel Valls a certainement la volonté de faire prévaloir une solution qui serait favorable à la social-démocratie, mais que tout dépend des arbitrages toujours incompréhensibles de François Hollande et de son fidèle serviteur, M. Sapin.
Thierry Pêche.
Oui, mais je crois que effectivement, ce que vient de dire Jean-Louis concernant la CGT est tout à fait juste, et je voudrais m'y arrêter un instant. Vous savez, ça fait 120 ans que dans les congrès de la CGT, on parle du patron de la CGT comme de l'homme qui peut mettre la France à genoux. Alors, il y a différentes formules, hein, mais c'est toujours cette idée qu'au fond, le pouvoir ultime de cette organisation, c'est le blocage. Hein. C'est, disaient les concepteurs de la grève générale, la capacité, la puissance de faire le silence autour du pouvoir.
La grève générale, c'est anarcho-syndicaliste, hein, c'est pas cégétiste.
Effectivement, mais ça a été repris ensuite. Oui. Alors, la démonstration doit être faite maintenant par cette organisation, sinon elle va disparaître des écrans radars, du dialogue social et de la démocratie sociale. C'est ça l'enjeu. La CGT est vraiment dans une situation extrêmement critique. Or, qu'est-ce qu'elle constate ? Elle constate que cette mobilisation ne prend pas dans la rue. Il faut arrêter on est à la 8e journée de mobilisation et on ne peut pas dire que les rues soient pleines. Il y a des gens qui sont très mécontents, qui manifestent, mais ils ne sont pas très nombreux. Lorsqu'on fait allusion au CPE, on ne se souvient pas qu'à l'époque, les rues étaient pleines à craquer. De fait, il y avait un mouvement qui mobilisait des centaines et des centaines de milliers de gens. Alors, Nicole me fait signe que c'est venu progressivement, en effet, mais c'est venu à la 8e ou à la 10e journée, on y était déjà avec le CPE. Là, c'est pas le cas. Les rues ne sont pas pleines, les étudiants n'y sont pas. Ils n'y sont plus exactement. Ils révisent leur partiel, probablement. Les Nuits Debout s'étiolent un peu, qui est le visage, d'ailleurs, je trouve le plus sympathique hein, de tout ce qui se manifeste. Donc ce mouvement n'est pas un mouvement de masse, c'est un mouvement qui persiste dans la difficulté et qui se radicalise et qui, en plus, est infiltré par des groupuscules opportunistes extrêmement radicalisés et déterminés qui introduisent énormément de troubles, y compris dans les rangs syndicaux. Alors la CGT s'est dit, on va passer au blocage. Et elle bloque là où elle est présente. Et elle est présente dans quelques secteurs. L'énergie, de fait, et là c'est très embarrassant, sa fédération chimie-énergie, la FNIC, je crois, est l'une des plus radicalisées hein, de la Confédération. Donc dans les dépôts de carburant, ça prend pas mal. Dans les centrales nucléaires, on compte plus les appels à la grève que le suivi des grèves, parce qu'en réalité, sur 58 réacteurs, il y en a à peine une dizaine qui a sous-produit. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'aggraver, mais enfin, en gros, vous avez 4 TGV sur 5 à la SNCF, 3 RER sur 4, ça crée des désordres, mais la capacité de blocage de la CGT sur le pays n'a pas été démontrée jusqu'ici. Elle n'a pas été démontrée. Peut-être ça va-t-il être le cas, mais moi je n'en suis pas sûr. Si la CGT n'arrive pas à faire cette démonstration, alors elle ne pourra plus dire « nous sommes l'organisation qui est capable de mettre ce pays à genoux ». C'est ça la démonstration qui est peut-être en train de se faire. Donc c'est pas un moment comme un autre, si vous voulez. C'est peut-être un virage dans notre histoire sociale. Alors, quelle sera la conséquence de tout ça ensuite ? Je ne suis pas un homme de droite, mais si je l'étais, je me ferais quelques réflexions sur les conclusions que je tire de ce qui est en train de se passer. Est-ce que, par exemple, je ne serais pas tenté de dire le droit de grève dans une centrale nucléaire, est-ce qu'il ne faut pas quand même y réfléchir ? C'est un équipement extrêmement sensible, c'est une fonction vitale de l'économie. Les dépôts de carburant, est-ce que ce n'est pas quand même là aussi des infrastructures extrêmement sensibles pour la vie économique, etc.
Vous poussez au crime.
Non, je ne pousse pas au crime, je suis sûr. Non,
si
non, Jean-Louis.
La droite fait ça, elle Jean-Louis. Est battue, vous avez raison.
Non. Je pense qu'il y aura des gens pour dire ça.
Oui,
et je pense qu'en plus, ils seront entendus. Parce que les Français sont en train de suivre d'un œil, je pense, hagard et un peu paniqué, la confrontation, effectivement, entre une légitimité contestée du gouvernement et une légitimité épuisée de la CGT.
Nicole Dizotto.
Oui, moi je suis d'accord sur la responsabilité de la CGT et l'espèce d'épreuve de pouvoir qu'elle est en train de mener. Je rappelle un chiffre qui est, je crois, assez irréfutable. Elle ne représente que 2,8% des salariés syndiqués, qui sont eux-mêmes que 11% des salariés français. Mais malgré tout, je crois que l'explication par la stratégie de blocage de la CGT est quand même insuffisante quand on regarde les violences dans les manifestations, le retour des autonomes que moi j'avais connus quand j'avais 20 ans et que je manifestais, mais qui avaient quand même largement disparu des manifestations publiques, on se dit qu'il y a peut-être autre chose. Et quand je vois, par exemple, que les ouvriers de la DCNS, la Direction des Constructions Navales, qui est une grande entreprise française privée maintenant, qui viennent gagner un contrat de 33 milliards d'euros pour vendre des des sous-marins à l'Australie, quand je vois qu'ils se mettent en grève à Cherbourg, je me dis qu'il y a quand même autre chose qu'une simple stratégie de pouvoir de la CGT. Alors moi je vois trois explications à ce début d'embrasement. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais je vois quand même trois explications. Il y a une première explication très globale, mais qui je crois est vraie aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Autriche ou partout, qui est l'explication par la peur de la paupérisation, c'est-à-dire tout le corps travailleur a le sentiment que le monde change, que le monde a changé depuis deux décennies, qu'il y a un vrai risque de paupérisation pour les classes moyennes. Il y a même une réalité de baisse de pouvoir d'achat pour une partie des salariés. Je rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, 60% des Américains n'ont pas retrouvé le niveau de vie qu'ils avaient avant 2007, avant la crise. Et il y a donc cette capacité de la loi El Khomri à fédérer des colères, à fédérer des frustrations, à fédérer des angoisses, qui fait que des gens se mobilisent, pas forcément parce qu'ils sont affiliés à un syndicat, mais parce que il y a une angoisse de l'avenir qui n'est pas propre à la France, que l'on retrouve dans toute l'Europe, qui est exacerbée en France, parce que nous sommes le pays le plus dépressif sur l'avenir de la France en Europe. Mais il y a cette explication générale que je crois on aurait tort de minorer, parce que en partie, l'électorat de Madame Le Pen puise également dans ce même vivier de frustration et de colère. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est bien sûr la loi El Khomri elle-même, c'est-à-dire c'est la première tentative de ce gouvernement de réformer en profondeur le marché du travail français et donc les règles du jeu de l'économie en France. Et donc, évidemment, ça fédère, alors là, évidemment, le pouvoir de la CGT, mais également l'anticipation de ce que pourrait faire l'année prochaine un gouvernement de droite. Je crois que l'explication par l'anticipation d'une alternance politique est tout à fait recevable. Et dans la rue, les gens disent au futur Juppé, Fillon ou je ne sais qui, attention, déjà la loi El Khomri, ça ne passe pas, alors vous n'aurez pas la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, ça ce sera grève générale et ad vitam aeternam. Je crois qu'il y a un message politique électoral aux alternances possibles par rapport au gouvernement. Et puis la troisième raison, donc c'est celle que vous avez dit, c'est la lutte de pouvoir au sein de les gauches. Là, je crois qu'on a, mais vraiment en cinémascope, si je puis dire, l'éclatement des gauches françaises, de la gauche française, entre le gouvernement d'une part et son électorat, et deuxièmement, entre le Parti Socialiste et les Frondeurs. Je rappelle quand même, il n'y avait rien pour moi de plus violent que l'idée que les Frondeurs aient pu penser faire une motion de censure contre le gouvernement de M. Valls. Là, je crois que là aussi, il y a un signe éclatant. Et puis enfin, donc, la stratégie de la CGT, et là je rejoins complètement ce que vous avez dit, cette stratégie est suicidaire pour la CGT. Je crois que le Premier ministre Valls a raison. Non, je crois que Valls a raison de dire que la CGT ne dirige pas le pays.
François Bujon de l'Étang.
On va d'étonnement en étonnement dans cette affaire. Bon, enfin moi en tout cas, qui suis naïf, j'ai été d'étonnement en étonnement dans cette affaire. D'abord par les conditions dans lesquelles a été lancée cette réforme, qui était certes incontestablement une réforme nécessaire, mais elle a été lancée par le gouvernement, on en a déjà parlé, sans aucun véritable marketing, sans aucun effort de pédagogie, même s'il y avait eu des travaux préparatoires excellents, comme le rapport Combrexel par exemple, tout à fait excellent de base. Ça a été quand même lancé d'une façon que je trouve tactiquement difficilement excusable. Ensuite, le moment, faire ça en quatrième année d'un quinquennat déjà fatigué, c'est évidemment prendre un risque absolument gigantesque, alors qu'il y a déjà des quantités de preuves accumulées de la faiblesse ou de l'usure du pouvoir en place. Et puis, faire ça alors qu'il y a déjà une coupure profonde au sein de la majorité qui s'est déjà manifestée dans un épisode précédent qui était celui de la loi Macron qu'il a fallu aussi faire passer au 49-3, ça me paraît tout à fait étonnant. Donc voilà, moi mes sujets d'étonnement sont absolument multiples dans tout ça. Alors maintenant on arrive à une curieuse situation. Grève insurrectionnelle, avez-vous dit Philippe, et effectivement c'est bien le cas, mais je souscris pour ma part à tout ce qu'a dit Thierry Pech sur la faiblesse de la CGT et le fait que c'est un révélateur de faiblesse, cette épreuve de force, effectivement. Seulement, ce révélateur de faiblesse, où mène-t-il ? On en arrive à une situation bloquante dans laquelle la CGT réclame de façon catégorique et radicale le retrait Et le retrait d'une loi déjà votée, même si on n'aime pas le 49-3, il reste, si on est un peu légaliste, que cette loi est votée par l'Assemblée nationale, en tout cas. Et du côté du gouvernement, alors bien sûr, on entend une cacophonie générale, puisque M. Sapin dit une chose, M. Valls dit le contraire, et M. Bruno Le Roux une troisième, mais sans même parler de M. Macron, qui fait son bruit de fond. Mais malgré tout, il y a une obstination de la part du Premier ministre à dire il n'est pas question de renégocier l'article 2 sur laquelle se cristallise maintenant la discussion, et on comprend pourquoi, puisque ça c'est véritablement l'enjeu de pouvoir pour la CGT. Si vraiment on renverse les normes au point que l'accord d'entreprise l'emporte sur l'accord de branche, c'est effectivement la fin du pouvoir de blocage de la CGT. Donc on... Mais les voilà, tous les deux, maintenant dans cette position tout à fait bloquante. Donc il faudra qu'il y ait un perdant. Et s'il y a un perdant, il y aura aussi un vainqueur, mais ce vainqueur sera un vainqueur à la Pyrrhus. Je ne pense pas qu'il s'en sorte bien. Si c'est la CGT, le dégât est quand même tout à fait considérable pour le pays. Il est considérable pour la poursuite d'une possibilité de dialogue social, quel qu'il soit. Et il sera difficile pour la gauche au pouvoir. Et si c'est une victoire du Premier ministre, et il l'aura payé très très cher tout de même, parce que le paysage fragmenté qui existait déjà au moment où il a introduit la loi El Khomri devient encore plus... On a une double coupure. On a la coupure de la majorité et on a la coupure du mouvement syndical. Aujourd'hui, la vraie question, c'est en fait la faiblesse de ce gouvernement, sa perte totale d'autorité que manifeste c'est la rue, ce qui se passe dans la rue en plein état d'urgence... Et ce que manifeste évidemment la perte d'une majorité.
Oui, deux choses. FO est aussi intransigeante que la CGT sur la question de l'article 2 et demande le retrait de cet article 2.
Oui, mais
la deuxième chose, c'est ce que soulignait Éric Dupin, que je citais tout à l'heure, c'est cette idée, cette espèce de réhabilitation de l'idée que la violence est un mal nécessaire au changement social. Nicole Nisotto.
Oui, deux mots sur les scénarios possibles de sortie de crise. Il y a effectivement, il y a un premier scénario du pire qui est le scénario de l'embrasement généralisé, de grève générale, de blocage de la France, y compris pendant l'euro, y compris au moment du départ en vacances et des examens des étudiants. C'est un scénario qui est possible maintenant, parce que je crois que la CGT n'hésitera pas à monter aux extrêmes. Ça me paraît aujourd'hui peu probable, parce que d'une part, comme Thierry l'a dit, les étudiants pour l'instant ne suivent pas. Ils ont obtenu d'ailleurs un certain nombre d'assurances de la part du Premier ministre. Le privé ne suit pas vraiment. Les routiers ont obtenu aussi le paiement des heures supplémentaires, enfin une exception sur le coût des heures supplémentaires. Donc, ça n'est pas le plus certain, mais on ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure, effectivement, un embrasement généralisé. Deuxième scénario, le deuxième scénario du pire, la démission du gouvernement. Et le retrait donc de la loi, je n'y crois pas du tout parce que ça n'est pas dans le caractère du Premier ministre. Mais là aussi, comme ça, on est dans des stratégies d'affrontement violent, on ne peut pas l'exclure. Le bon scénario serait celui du compromis, notamment sur l'article 2. Maintien de la loi, mais changement de l'article 2, mais c'est la seule solution de compromis. En revanche, le quatrième scénario, moi, que je vois et qui me paraît hélas possible, c'est qu'on ait les deux. C'est-à-dire qu'on ait à la fois une proposition de compromis et malgré tout le maintien d'un scénario d'embrasement et que cela se dure pendant plusieurs mois, y compris pendant le début du débat présidentiel.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, d'abord sur le plan de l'enjeu, je crois qu'on assiste, notamment je pense à l'instigation de M. Mailly et de FO, on assiste à un déplacement auquel la CGT pourrait finalement consentir de l'enjeu qui n'est plus le retrait du texte, mais la remise en cause de l'article 2. Cela dit, c'est inacceptable pour la CDT.
Non, Jean-Claude Mailly a dit vendredi matin qu'il proposait la suspension pour une rediscussion du contenu de l'article 2, c'est-à-dire une espèce de système
Monsieur Mailly n'est certainement pas ennemi du double langage. Les formations idéologiques qui sont celles de son syndicat ne l'en éloignent pas. Et je pense qu'il est un peu à la manœuvre pour trouver une solution de compromis entre le gouvernement et la CGT. Mais ce que je veux dire, c'est que les prises de position, notamment de la numéro 2 de la CFDT, est d'ailleurs très justifiée. Car cette dame dit très justement...
Véronique Descartes.
Descaques. Véronique Descaques, où il dit très justement que l'article 2, c'est la promesse d'une réarticulation et d'un réenracinement en profondeur du dialogue social. Il y a d'ailleurs des risques pour le patronat, car ça développe des ferments un peu autogestionnaires. Mais enfin, on va pas venir là-dessus. Donc la CFDT a tout à fait raison de se situer là-dessus, et elle en fait vraiment une barrière. Donc si on cède sur l'article 2, si le gouvernement cède sur l'article 2, eh bien, il est clair qu'il met en difficulté l'ensemble du mouvement dit réformateur, qui est la CFDT, l'UNSA, la CGC, et la CFTC. Donc ça fait quand même beaucoup de monde au balcon. Donc là, ils se détruisent complètement. Si on faisait ça, je pense que Valls, après ce qu'il a dit, ne pourrait pas ne pas démissionner, et la situation serait absolument perdue pour François Hollande. L'enjeu n'est d'ailleurs pas celui de Valls, c'est Hollande. C'est de savoir... Alors l'autre scénario, c'est effectivement de tenir le choc. Alors là, on voit très bien ce qui milite en faveur d'une résistance, voire d'un affrontement, mais ça signifie quelque part de retrouver, de chausser les bottes de Jules Moc. Je rappelle que ce sont les socialistes qui, grâce au ciel, ont inventé les compagnies républicaines de sécurité pour lutter contre les graves insurrectionnelles en 47-48. Et je pense que là, il faut débloquer, ça implique de l'action policière, ça implique quelque chose de pénible et de dur. Alors Valls y est prêt, Hollande y est-il prêt? Je n'en sais rien, mais en tout cas, les atouts sont les suivants. Pour le gouvernement, il y a ce que dit Thierry, auquel je souscris parfaitement, c'est-à-dire la non-représentativité absolue, le non-embrayage, si je puis dire, de la population sur le mouvement de la CGT, même si elle n'est pas satisfaite de la loi El Khomri. Donc ça donnerait ses chances au pourrissement, ça donnerait ses chances à une stratégie de pourrissement et de blocage. Et à l'inverse, le vrai problème, et ça, on voit bien que le gouvernement est absolument tétanisé par ça, c'est le football. C'est l'euro. Est-ce que ça va naufrager l'euro? Alors il faut avoir le courage de dire que dans cette affaire, l'avenir de la démocratie sociale en France, de l'économie de marché, de l'entreprise et d'un dialogue social rénové passe par le fait qu'on discipline les pulsions tout à fait abusives de ce peuple pour les matchs de football.
Thierry Pêche. Non, mais moi je partage l'amour du football et ça n'est pas une tare.
J'ai pas mis en cause l'amour du football.
D'accord. Alors un mot, contrairement à Nicole, je ne crois pas qu'il y aura de compromis sur l'article 2. Et deux, je pense que ça n'est absolument pas souhaitable pour les raisons qu'a dit Jean-Louis, mais aussi parce que sur cet article 2, ce qui se manifeste, c'est pas simplement l'opposition d'un mouvement social et d'un gouvernement, c'est l'opposition de deux traditions, de deux compréhensions de la démocratie sociale qui habite la gauche depuis longtemps. Il y a une tradition du contrat, du syndicalisme d'entreprise, et il y a une tradition jacobine de la loi qui est incarnée par la CGT. Et ça, c'est un débat assez ancien, qui a des contradictions, mais ce sont deux fils parallèles de l'histoire de la gauche avec la question sociale. Du côté du contrat, bien sûr, on trouve la CFDT, mais c'est pas une affaire qui date d'hier. Il faut remonter à 1968 pour la création de la section syndicale dans l'entreprise, aux lois Auroux. La gauche a une histoire avec le contrat. Et puis, de l'autre côté, effectivement, un syndicalisme qui croit à la loi parce qu'il est faible dans l'entreprise, mais aussi parce qu'il pense que c'est la seule façon de défendre tout le monde, à la loi et aux accords de branche. Bon, moi, je pense que le contrat va gagner. Et je pense qu'il faut que le contrat gagne dans ce pays. C'est une tradition, je suis d'une tradition plus social-démocrate, ça vous surprendra pas. Et je pense qu'il faut qu'il gagne parce que c'est la seule façon de donner aux entreprises effectivement de la souplesse, mais de la souplesse dans le dialogue. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il n'y a pas que l'article 2 dans cette loi. Certes, les accords d'entreprise pourront déroger à la loi si on suit cette loi, mais à la condition qu'il recueille l'assentiment d'organisations représentant plus de 50% des suffrages exprimés par les salariés. Donc on fait entrer la démocratie dans l'entreprise. Ça n'est pas rien, cette affaire. Bon, si on est social-démocrate, on défend ça. On cesse de considérer que les salariés sont des enfants incapables de prendre en
La CGT n'a jamais été autogestionnaire, reconnaissons-le.
D'accord.
Et elle n'est pas social-démocrate.
La CFDT l'était. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une tentation autogestionnaire. Eh bien, tant mieux. Eh bien, tant mieux. Mais c'est ça qui est en jeu. Donc, ça n'est pas rien. C'est une vieille histoire qui est en train de se régler, peut-être, sur cet article 2.
François Bujon de l'Étang.
Oui, je suis d'accord avec ça. La CGT est loin d'être social-démocrate et les méthodes qu'elle emploie en sont extrêmement loin. Il y en a même qui sont tout à fait extraordinaires. Moi, je suis encore sous le coup de ce qui s'est passé jeudi pour les quotidiens nationaux qui ont été interdits de sortie après le chantage de la CGT et on a trouvé que l'humanité dans les kiosques. Enfin, ce sont des drôles de méthodes. Mais effectivement, c'est tout l'enjeu est reprise et si le gouvernement devait reculer là-dessus, la loi El Khomri serait définitivement vidée de sa substance. Donc autant la retirer pratiquement, sauf que en termes de perte de face, le dégât serait encore plus grand. C'est toute la difficulté de la crise actuelle, c'est la difficulté de trouver une porte de sortie. Et pour le gouvernement, et pour la CGT. Et ça, c'est évidemment l'inconvénient de la radicalisation.
Oui, non, je crois qu'il y a un truc. Le visage qui m'intéresse à la CGT, c'est celui de la sécurité sociale professionnelle. C'est là-dessus qu'elle doit se battre. Et le bon deal qu'il faut défendre, c'est plus de flexibilité dans les entreprises. Et oui à l'article 2, oui à la loi El Khomri, mais de la défense, non pas des statuts, mais des personnes. Et là, on aura besoin de la loi. C'est ce deal-là qu'il faudrait, à mon avis, défendre. Et c'est celui-là qui est assez peu défendu, finalement.
Je vous remercie. Je vous propose que nous... Pardon, Nicole Nézeto, un mot. Alors, je propose que nous passions à l'élection présidentielle en Autriche. Dimanche, le second tour de cette élection opposée Alexander Van der Bellen, candidat indépendant, pro-européen, soutenu par le Parti des Verts, à Norbert Hofer, représentant du parti d'extrême droite FPE. Alexander Van der Bellen l'a emporté avec 50,3% des suffrages et seulement 31 026 des 4 600 000 votants ont départagé les deux concurrents. 40% des électeurs d'Alexander Van der Bellen au second tour ont cité la nécessité de faire barrage à l'extrême droite comme principal motif de leur vote. Au pouvoir depuis la Seconde Guerre mondiale, les partis social-démocrates et conservateurs ont connu une déroute historique au premier tour des élections, alors que l'extrême droite arrivait en tête avec 36,4% des voix, obtenant son meilleur score depuis la création du parti. Le candidat des Verts a recueilli 20,4% des suffrages. Prenant alors acte de son impopularité croissante, le chancelier Werner Faymann, à la tête du parti social-démocrate, a démissionné le 9 mai dernier. En 2015, l'Autriche a soutenu la politique d'accueil des réfugiés d'Angela Merkel en acceptant plus de 90 000 demandeurs d'asile, soit plus de 1% de sa population, ce qui correspond à l'un des taux les plus élevés des membres de l'Union européenne. La vague de solidarité manifestée à l'automne dernier s'est cependant brisée depuis janvier, et le pays a décidé qu'il ne pourrait pas accepter plus de 37 500 migrants cette année. L'Autriche, pays à la longue tradition d'accueil de réfugiés, a fermé ses portes en avril dernier, et le ministre de la Défense a annoncé la construction possible d'un mur à la frontière italienne dans le cas où le flux de migrants continuerait. Le parti d'extrême droite autrichien, le FPE, a bénéficié de l'enlisement de la crise des migrants pour gagner en priorité, comme d'autres courants populistes en Europe, et notamment en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et même en France. Alexander Van der Bellen sera investi le 8 juillet. Christian Kern, connu pour avoir redressé les chemins de fer autrichiens dans un climat social apaisé, a été nommé chancelier social-démocrate. Les prochaines élections destinées à élire le Parlement auront lieu en 2018 sur cette question, Nicole Nézotto.
Oui, l'Autriche ou le vent du boulet. Mais avant de parler de l'Autriche, je voulais juste m'étonner de la stigmatisation qui a été faite dans les médias de l'Autriche, comme si c'était le premier pays à avoir une tentation d'extrême droite en Europe. Alors certes, aucun pays européen n'a mis à la tête de l'État fût pour un pouvoir symbolique un représentant de l'extrême droite, mais quand même, je rappelle que l'extrême droite est au pouvoir, pouvoir réel dans au moins 4 pays européens, la Pologne, la Hongrie, la Finlande. Au Danemark, elle n'est pas au pouvoir, mais elle soutient le gouvernement libéral sans participation. Et je rappelle qu'en Suisse, le Parti démocratique du centre a une majorité il y a quelques mois au Parlement sur un programme anti-immigration et anti-minerais. Donc, simplement pour dire qu'il y a des arbres qui cachent des forêts, et j'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette émission, le taux de vigilance démocratique dans nos pays baisse considérablement, et même si on peut se réjouir de l'échec de M. Hofer, il ne faut pas oublier que l'extrême droite est déjà bien installée dans un certain nombre de pays. Maintenant, je reviens à l'Autriche, et effectivement, on a senti passer un vent de boulet. Alors, au premier tour, vous l'avez dit, le candidat vert, Alexander Van der Bellen, avait 14 points de retard donc, sur le candidat de l'extrême droite, il y a à peine 3 semaines. Il a fait une remontée spectaculaire, due bien évidemment au vote de la diaspora autrichienne à l'étranger, due aussi à une espèce de réflexe à la fois de républicain et à une espèce de réflexe de culture européenne, de l'image de l'Autriche que les Autrichiens souhaitaient donner. Mais alors, est-ce qu'on peut simplement se satisfaire de ça, et notamment en France, en tirer les leçons que le réflexe républicain fonctionne et fonctionnera toujours? Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur 2 points. D'abord, la marge est extrêmement étroite, donc il y a eu réflexe républicain, mais quand même 30 000 voix d'écart, c'est très très peu. Et quand on regarde les élections, notamment en France, ces marges se réduisent. Le réflexe républicain avait amené M. Chirac au pouvoir en 2002 avec 80% des voix. Au régional dernière, le réflexe républicain a permis au parti traditionnel de gagner avec 52-53% des voix. Donc, le réflexe républicain en Autriche, oui, il a fonctionné, mais je ne crois pas qu'il faille en tirer la conclusion que ça marchera toujours. Je crois que le plafond de verre en Autriche comme ailleurs peut être percé. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon en particulier par rapport au parti traditionnel? Parce qu'il me semble, moi, que l'événement spectaculaire en Autriche, c'est pas tellement la bataille entre un extrême vert et un extrême droite, c'est la disparition des partis traditionnels de l'après-guerre, c'est-à-dire la gauche et la droite. Et là, je crois qu'on peut en tirer un certain nombre de leçons. D'une part, il y a 3 écueils à éviter: le cynisme, le mimétisme et l'immobilisme. Le cynisme, qui est de dire... On dénonce l'extrême droite, mais on fait alliance avec elle quand c'est nécessaire. C'est ce qu'avait fait la droite avec le FPÖ en 2000 en Autriche. C'est ce qu'a fait la gauche dans les élections régionales en juin 2015. Et donc là, elle se discrédite complètement. En France, ça n'a jamais existé pour l'instant. Deuxièmement, écueil mimétisme, c'est-à-dire décrédibiliser le parti, mais reprendre les thèmes à son compte. Et on aboutit à l'inverse. On s'affaiblit et on renforce la crédibilité du parti. Et ça, c'est une tentation que l'on a beaucoup en France. Et le troisième écueil, c'est l'immobilisme, c'est-à-dire penser que le réflexe républicain fonctionnera toujours et donc ne pas changer les appareils politiques. Et je crois que des erreurs qu'ont fait les partis de droite traditionnels et les partis de gauche traditionnels en Autriche, c'est-à-dire ne rien changer à leur fonctionnement, ça c'est une leçon qui doit être entendue.
François Bugeon de l'Étang.
Il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Nicole sur lesquelles je voudrais revenir. D'abord, il y a la notion de plafond de verre que je trouve évidemment très intéressante, puisque chez nous, on met toujours en avant le plafond de verre qui interdirait un candidat du Front National d'être élu après son succès au premier tour. En Autriche, il n'y a pas eu vraiment de plafond de verre en réalité, parce que M. Hofer a quand même atteint 50%, pratiquement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réflexe républicain en réalité, et qu'il y a eu une coalition. Et ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé par exemple chez nous en 2002, où il y a eu une espèce de front républicain qui s'est formé autour du candidat Chirac, là c'est autour d'un outsider que s'est faite la coalition, et non pas autour d'un politicien qui sortirait d'un des 2 partis de gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les 2 partis de gouvernement sont balayés, et que c'est quelque chose de très très dur quand même, quand on en arrive dans une démocratie, à ce que les partis de gouvernement qui ont alterné pendant 50 ans soient totalement balayés. Alors est-ce que c'est transposable chez nous, ces 2 enseignements? C'est très difficile à dire. Nos 2 partis de gouvernement, vous l'avez dit très justement, n'ont jamais signé de compromis avec le Front National, mais par contre, certains évoquent la possibilité qu'ils concluent un jour une alliance. Je pense qu'il faut réfléchir à l'exemple autrichien. Sarkozy, par exemple, Monsieur Sarkozy dit couramment qu'il est contre toute idée de coalition droite-gauche parce que ça favorise les extrêmes. C'est exactement ce qui s'est passé en Autriche, effectivement. Et ceci amène de l'eau à son moulin en un moment où il peut y avoir des tentations, soit dans la gauche réformiste, chez Macron, par exemple, le mouvement En Marche, soit dans la droite la plus éclairée, d'avoir des majorités au moins d'idées sur certains sujets. Donc l'exemple autrichien doit nous faire réfléchir.
Plus que l'effet d'un plafond de verre, c'est l'effet du vote des Autrichiens de l'étranger qui a valu la défaite du candidat de l'extrême droite.
Il y a quand même quelques autres
à distance.
Imaginez simplement la situation, imaginez quelle est la situation en France si Le deuxième tour de l'élection présidentielle, la défaite de Madame Le Pen, à supposer qu'elle soit au deuxième tour, était assurée par les Français de l'étranger. Pardon, Thierry Philippe, Pêche.
C'est des procurations.
Oui, non, c'est des procurations. En fait, le vote par correspondance est beaucoup plus développé en Autriche que chez nous. Et ce ne sont pas seulement des gens qui vivent en dehors de l'Autriche, ce sont aussi des Autrichiens qui vivent en Autriche, mais qui ce jour-là ne sont pas dans leur circonscription pour voter.
Et dont la mobilité ouvre l'esprit.
Bon, ça c'est le commentaire de Jean-Louis Bourlange. Alors, justement à propos de Jean-Louis Bourlange, Alexandre van der Bellen, c'est un Jean-Louis Bourlange habillé en vert qui mangerait bio et qui aurait réussi sa carrière politique, c'est ça que vous voulez dire? Bon, voilà. Alors, c'est fantastique parce qu'on imagine en France qu'un vert ne peut être que vraiment de gauche, etc. Non, Alexandre van der Bellen, il est libéral, il est centriste.
Mais c'est un ancien vert, Thierry, c'est un vert à moitié vide plutôt qu'à moitié plein.
Alors, ça c'est...
Oui, enfin, c'est le vert de...
François, un universitaire cultivé.
Vous avez eu des sorties plus heureuses, je crois, pardon de vous le dire. Bon, alors, Alexandre van der Bellen, c'est ça. Donc, il faut bien s'imaginer, on dit un verre, c'est pas un verre comme chez nous, hein. C'est pas un verre de chez nous, si vous voulez. C'est un verre très centriste. Ouais,
c'est le Cohn-Bendit aurait été assez proche. Alors, effectivement, la dame...
C'est un Cohn-Bendit s'il avait eu l'intention de faire une carrière politique. Oui. Bon, on va cesser les blagues. Maintenant, il y a des choses sérieuses. Il a gagné parce qu'il a incarné autre chose que lui-même. Il a incarné la seule alternative au risque populiste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est exprimé dans les urnes? Il s'est exprimé un fort vote populiste, 49,7%, donc quasiment la moitié des suffrages exprimés, contre l'Europe, contre les migrants, contre le système. Et ça, c'est une contestation qu'on entend un peu partout dans le monde occidental aujourd'hui, y compris aux États-Unis. Trump parle pas d'Europe, mais je veux dire, les migrants, c'est un sujet, le système, c'est un sujet. Bon, il faut vivre avec cette idée que les élites, et pas simplement politiques, les élites sont contestées partout dans le monde démocratique et en partie légitimement contestées. Parce que ce que demandent les populations, c'est « Mais où vous nous emmenez avec vos histoires, là, l'Europe? Où est-ce que vous nous emmenez ?» Quel est le sens de tout ça? Et je pense, moi, qu'une des leçons que nous devons tirer, je le dis très brièvement parce que le temps passe, une des leçons que nous devons tirer de ce genre d'exemple, c'est pas, est-ce qu'il faut faire alliance, pas alliance, etc. Ça, c'est vrai que les alliances favorisent les extrêmes. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas ailleurs. Je veux dire, on n'aurait jamais vu pousser Alternative für Deutschland ou Pegida s'il n'y avait pas eu des coalitions dans ce pays depuis des années et des années. Bon. Non, la leçon qu'il faut en retenir, je crois, c'est que ceux qui veulent incarner une culture de gouvernement dans les démocraties aujourd'hui doivent proposer du sens. Ils doivent proposer autre chose que le désenchantement assumé qu'incarne quelqu'un comme Juppé aujourd'hui. Jean-Louis se satisfaisait du fait que Juppé ne cherchait pas à enchanter la vie politique.
Je ne me satisfais pas, je m'en réjouis.
Vous en réjouissiez, c'est vrai.
Il ne faut pas enchanter la vie politique.
C'est plus grave que ça. Non, oui, mais il faut quand même dire aux gens où on veut les emmener. Et pour le moment, on ne le leur dit pas.
Si,
on leur propose une soupe technocratique, en général, qui tient lieu, qu'on appelle programme et qui tient lieu de direction. Eh bien, je suis désolé, un programme, ça ne fait pas un cap.
Jean-Louis Bourlange. Oui, enfin, l'enchantement, c'est justement le contraire de dire la vérité. C'est ça que montre Gaucher. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'écrit Gaucher, mais là, je crois que son propos sur le réenchantement avait été formidable. Il a montré que les politiques du réenchantement, les deux grandes politiques du réenchantement au XXe siècle, ça a été Staline et Hitler. Ça, c'était de la politique enchanteresse. C'est-à-dire, il le montre très bien, c'est une politique du charme, au sens Tristan et Iseult de l'affaire. Bon, donc là, Juppé, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça, il est peut-être pas enchanteur, mais justement, il est lucide. Mais laissons Juppé là où il est. Moi, ce qui me frappe, c'est, je pense que vous ne dites pas ça, mais je sens dans vos interventions que vous quelque chose comme ça. Ce qui me frappe, c'est qu'un dans l'affaire autrichienne, c'est qu'un candidat anti-système peut en cacher un autre. C'est-à-dire que le véritable candidat anti-système, c'est celui qui a été élu. C'est un homme qui était donc dans une synthèse idéologique un peu particulière, dont Thierry a rappelé le caractère très sympathique. Et d'autre part, qui n'était soutenu réellement par aucun des partis politiques, qui a été élu à travers une mobilisation de la société civile contre les partis, face à un homme qui certes est apparemment, et là la comparaison avec le Front National n'est pas du tout pertinente, en tout cas pas avec le Front National de M. Philippot et de Marine Le Pen, qui apparemment était candidat de l'extrême droite, en réalité est le candidat de l'establishment socialiste depuis longtemps. Idéologiquement, même s'il y a des l'état de rémanence. Les Autrichiens sont compliqués. L'état de rémanence néo-nazi dans les origines de ce parti, en réalité, les nazis étaient des gens qui voulaient, c'était des pauvres, des exclus, qui voulaient piquer l'argent des riches ou de ceux qu'ils pensaient riches, c'est-à-dire les juifs. L'autre, c'est exactement l'inverse, c'est le gars des riches qui veut se protéger contre l'attaque des pauvres, c'est-à-dire des immigrants. Donc on est dans un cas de figure tout à fait différent. C'est un conservateur au sens plein du terme. D'ailleurs, il n'est pas hostile à l'euro. Il dit que il est aussi dans la bureaucratie bruxelloise, dans la mesure où il accuse d'être communautariste, etc. Mais en réalité, il est très à l'aise avec une monnaie forte, et c'est pas du tout son problème. Sur le plan, non pas idéologique, mais sur le plan politique, je rappelle que Kreisky, le vieux chancelier historique socialiste d'Autriche, avait, il y a déjà des décennies, fait une alliance avec le Parti libéral pour que celui-ci ne l'attaque pas au gouvernement, au Parlement, parce qu'il avait un pouvoir de blocage. Et actuellement, le candidat M. Hofer, le parti de M. Hofer, est allié dans une région avec les chrétiens-démocrates et dans une autre région avec les sociaux-démocrates. Donc on avait là une simplement les Autrichiens, ils sont très conservateurs, hein, c'est ça qu'il faut voir. Et l'autre, donc on est dans une logique tout à fait différente de celle qu'on imagine, ce qui d'ailleurs donne ses chances à et là je rejoins l'inquiétude de Nicole, donne ses chances à un chancelier dans les élections législatives, à un chancelier qui serait de cette obédience idéologique-là, parce que ça correspond à quelque chose de fort. C'est un parti traditionnellement conservateur, allergique à toute forme de culpabilisation sur le passé, qui est arrivé. Alors maintenant, ce que je veux dire, pour conclure sur chez nous, qu'est-ce que ça entraîne ? Le problème posé par Sarkozy, qui a été repris par François, est-ce que la conjonction des centres provoque, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en l'occurrence, il y avait un bloc idéologique beaucoup plus uni qu'on ne le dit entre les sociaux-démocrates de droite, les chrétiens-démocrates et le parti libéral. Moi, je me rappelle une anecdote quand même. Quand on a eu les affaires d'Autriche avec l'arrivée d'Haider, j'avais demandé à ma conseillère de presse du PPE, qui est une femme extrêmement compétente, Anne Wall, je lui avais demandé de m'avait passé les programmes. J'avais demandé le programme du parti social-chrétien et du parti libéral. J'avais lu le programme, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un programme de droite. Puis au milieu de ma lecture, je me suis aperçu que ce que je lisais, c'était le programme du Parti chrétien-démocrate et pas le programme du libéral. Donc, qui était quand même très dolfusien, très à droite, très très à droite. Bon, mais la vérité, ce que ne veut pas voir Sarkozy, c'est que la rupture idéologique, ce n'est plus la rupture droite-gauche. La rupture, elle est à l'intérieur de la droite, entre une droite conservatrice qui, en Autriche, est très fortement représentée, et une droite d'ouverture et libérale, et à gauche. Donc on est, le clivage idéologique ne correspond pas. Deuxièmement, je termine juste par là, par une phrase. Si la comparaison avec la France, ça veut dire une seule chose, le beau score de M. Hofer signifie une chose, c'est qu'il y a de l'avenir pour Marion, et qu'il y a en revanche urgence pour le Front National, mais je n'appelle pas cette urgence, à se débarrasser de Marine et de Philippot.
Thierry Pêche.
Oh, non, je voulais juste faire une incise. Les nazis n'étaient pas des pauvres. La sociologie historique du nazisme, c'est beaucoup plus des classes moyennes fragilisées, des classes moyennes inférieures. Relisez les quelques pages consacrées à cette question dans Erich Fromm.
Les classes moyennes sont ruinées par l'inflation et les ouvriers sont ruinés par la crise de 1929. C'est la conjonction des deux.
Oui, en partie. Mais c'est aussi beaucoup des classes moyennes qui vont entrer dans le parti national-socialiste et le structurer.
Nicole Nézotto,
historien. Juste, moi je ne sais pas s'il faut offrir du charme ou du sens aux électorats européens, mais ce qui est sûr, c'est que les élites politiques doivent retourner au réel. Et ce que l'on voit en Autriche, et en cela elle est exemplaire, je crois, des électorats occidentaux, pas seulement européens, c'est qu'il y a un triple refus de la mondialisation et des risques de paupérisation qu'elle entraîne. Deuxièmement, de la classe politique, autrement dit de sa culture de connivence et de son impuissance à gérer les crises. Et troisièmement, refus de l'immigration. Alors pour l'Autriche, c'est totalement étonnant, parce que l'Autriche a été un grand pays d'accueil, une grande culture d'accueil, mais aujourd'hui, face au flux d'immigrés venant des pays musulmans, les Autrichiens ont effectivement ce refus. Je conclue en disant, si ce sont les trois ferments qui risque de porter au pouvoir des mouvements extrêmes ou des partis politiques extrêmes, la mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation des différentiels de richesse entre les gens, hein, c'est ça. Deuxièmement, les élites politiques et troisièmement l'immigration. Il me semble que sur ces trois domaines, il y en a un seul sur lequel on peut essayer d'agir, en particulier en France, c'est effectivement la recomposition du paysage politique et du fonctionnement des élites politiques. Sur le reste, c'est beaucoup plus compliqué.
François Bujon de l'État.
Moi, je voulais dire trois petites choses toutes simples et qui sont toutes liées d'ailleurs. Le premier, c'est que le résultat net de cette élection, c'est que nous avons une Autriche qui a un système en sursis en réalité. Ils ont un chancelier et une majorité pour gouverner pendant les 2 ans qui mènent aux prochaines élections législatives. Et c'est là que sera l'heure de vérité. Nous verrons bien si M. Hofer et le FPE vont réussir à avoir la majorité au Parlement dans 2 ans. Donc le pire n'est pas encore arrivé. Deuxièmement, ceci illustre la très grande force de la poussée populiste en Europe centrale, dans tout ce qui était jadis l'Empire austro-hongrois. On le voit bien en Hongrie, on le voit en Slovaquie. C'est très important. Et la troisième remarque que je voulais faire, c'est sur les migrants, parce que Nicole a fait remarquer à très juste titre que ça prouve bien qu'il y a une notion qui s'appelle le seuil de tolérance, puisque l'Autriche est un pays qui s'est montré dans le passé particulièrement accueillante pour les migrants et qui a eu des vagues de migrants successives. Elle a eu tous les réfugiés d'Allemagne qui fuyaient l'avance de l'armée rouge. Elle a eu ensuite les Hongrois en 1956 qui fuyaient la répression de l'armée rouge à Budapest. Elle a eu les Tchèques après l'échec du printemps de Prague. Et toutes ces populations, tous ces migrants avaient été bien accueillis. Alors là, on est évidemment dans un type de migration complètement différente qui ramène au problème identitaire, qui est évidemment le problème central de tous les pays européens aujourd'hui.
Je vous remercie, Laura Sonnet, de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en disant le plaisir que j'ai pris à lire un bref livre signé de Darianne Chemin, reporter au Monde, comme on sait, qui s'appelle « Mariage en douce » et qui est publié aux éditions de l'Équateur. C'est l'histoire, c'est pas l'histoire du mariage de Jean Seberg et de Romain Gary, c'est l'histoire de la cérémonie, si je puis dire. C'est-à-dire que personne ne savait, tout le monde savait le village de Corse dans lequel il s'était marié, mais personne ne savait comment ce village avait été choisi, qui avait organisé tout ça. Et évidemment, ce mariage ressemble à du Romain Gary, c'est-à-dire il y a à la fois les services secrets, il y a tout un tas de gens qui racontent tout un tas de choses autour de ce mariage et qui évidemment n'en étaient pas. Il y a des journalistes qui se mettent à broder simplement parce que quelque part leur rédacteur en chef leur dit « Coco, il faut que tu racontes quelque chose » et Coco d'ailleurs rien à raconter. Il invente sans vergogne, mais tout ça, je pense que Romain Gary est un personnage exemplaire de gens qui se sont trouvés, après avoir donné le meilleur d'eux-mêmes et reçu de quelqu'un d'autre, en l'occurrence sa mère, le meilleur d'elle-même, dans des circonstances absolument extraordinaires et inimaginables, depuis son enfance jusqu'à la fin de la guerre. C'est quelqu'un qui tout à coup s'est trouvé dans un monde qui n'avait plus aucune espèce de relief par rapport à ce qu'il avait connu et qui s'est inventé, soit à travers la littérature, soit à travers certains événements de sa vie, qui s'est inventé un peu d'extraordinaire et qui soit à sa mesure. Et Jean Seberg est un personnage féminin extrêmement attachant, de femme, à un moment donné, on a oublié que c'était il y a finalement pas si longtemps, qui se libère des États-Unis, et les États-Unis le lui font payer très cher, et notamment le FBI, la calomnie de manière épouvantable, et ces deux destins se rencontrent et font un long bout de chemin ensemble avant de se séparer sans se séparer, tout en se séparant. Bref, Ariane Chemin raconte ça avec beaucoup d'informations, d'une part, et je trouve beaucoup d'empathie. Nicole Nisotto.
Oui, moi je vais aussi parler du plaisir que j'ai eu à lire un roman dont tout le monde vante les mérites aujourd'hui, mais je vais m'associer à cet éloge collectif. Il s'agit de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui est le premier tome d'une trilogie qui est parue et dont le dernier tome va paraître en juin chez Gallimard. Alors, Elena Ferrante est un auteur italien que l'on ne connaît pas, puisque c'est un pseudonyme, donc on ne sait pas si c'est un peu comme Romain Gary, je ne sais pas qui se cache derrière. Mais en tout cas, Émile Ajar. C'est une saga napolitaine jubilatoire. C'est l'histoire de deux petites filles, puis deux adolescentes, deux jeunes femmes qui vivent à Naples dans les années fin des années 50, 58-62, dans un milieu très très pauvre. Et c'est un roman à la fois d'éducation et de découverte de la vie politique. Ça pourrait être un film d'Ettore Scola. C'est une littérature formidable, comme seuls les Italiens savent le faire.
François Bujon de l'Étang.
C'est au domaine musical, la musique adoucissant les mœurs, que je voudrais emprunter ma brève aujourd'hui. Et puis ça me donne l'occasion de pousser un petit cocorico dans ces temps de morosité française, à la gloire de l'École française de piano. L'École française de piano a produit un pianiste encore peu connu qui s'appelle Geoffroy Couteau, et qui vient d'enregistrer l'intégrale de la musique pour piano de Brahms en 6 disques, chez Dolce Volta. C'est une performance en soi assez rare, et c'est un personnage d'autant plus intéressant qu'il est le lauréat du concours Johannes Brahms il y a quelques années, mais c'est un personnage Geoffroy Couteau, qui se consacrait à la gymnastique et qui envisageait de faire une carrière sportive jusqu'à ce qu'un problème physique le détourne et le ramène au piano. Et le voici maintenant en chantre de Johannes Brahms et en magnifique interprète de la totalité de la musique pour piano de ce grand maître du romantisme allemand.
La gymnastique mène à tout, à condition d'en sortir. Thierry Pech.
Oui, alors moi, je note scrupuleusement les conseils musicaux de François. Je les recommande à nos auditeurs. Je ne veux pas faire ma brève sur les brèves de François en matière musicale, mais il est un très bon pilote dans ces matières. Non, moi, je voulais vous recommander la lecture d'un article sérieux paru sur le site La Vie des Idées. C'est l'occasion d'ailleurs de tirer mon chapeau à ce site qui fait vraiment un travail remarquable. Un article d'Olivier Filleul et Fabien Jobard consacré aux politiques de maintien de l'ordre qui s'intitule « Un splendide isolement ». Et c'est une comparaison, je trouve, très suggestive, très intéressante, des politiques de maintien de l'ordre suivies aujourd'hui en France par rapport à ce qu'on fait en Allemagne, au Danemark et ailleurs, et notamment qui suggère qu'on devrait s'inspirer des politiques de désescalade qui animent aujourd'hui les stratégies d'intervention de la police allemande, par exemple.
Jean-Luc Bourlange.
Oui, je n'en veux pas trop à Philippe Meyer de m'avoir piqué ma brève de la semaine prochaine. Mais je reviendrai peut-être.
Mais parce que règle est qu'on peut être à deux sur la même brève.
Les liens familiaux du maire de Sarola-Carcopino avec la famille de ma femme étaient très, très serrés. J'ai beaucoup parlé avec lui. Il ne m'a jamais parlé de ce mariage, donc je suis très vexé. Et je trouve qu'Ariane Chemin, qui est une très bonne connaisseuse de la Corse, a quand même un avantage sur moi qui est considérable. Alors moi, je ne voulais pas faire ma brève là-dessus cette semaine. Je voulais parler du livre, très brièvement, rassurez-vous, du livre de Jean Tirole, Économie du bien commun. Alors c'est un gros, c'est un pavé, c'est un livre, le premier livre écrit en français par Jean Tirole, saluons son retour à la francophonie. C'est un livre qui n'est pas d'ailleurs très très bien écrit, mais c'est un livre qui est en fait, c'est le livre d'économie qui devrait se manifester au-delà de la crise que nous vivons. Car c'est un livre qui montre dont on devrait faire le livre du maître, comme on disait naguère, pour tous les professeurs d'économie d'enseignement secondaire, car il montre le lien entre, c'est le titre, Économie du bien commun, entre l'économie et le bien commun, entre l'économie de marché, la régulation et la redistribution. En réalité, c'est le point d'équilibre d'une société française qui aurait retrouvé ses assises.
Oui, la place de Jean Tirole dans la réflexion collective n'est pas encore, me semble-t-il, celle qu'elle pourrait être et celle qu'elle devrait être. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Crugère. Il reçoit Marie Rouanet. Marie Rouanet est une femme de lettres, elle est une ethnologue, elle a réalisé des films documentaires, elle est chanteuse, elle chante l'occitan, et elle s'est installée, ce qui achève de montrer toutes ses qualités, elle s'est installée dans le Rouergue. Elle parle de l'appétit et de l'appétit de la vie avec Alain Crugère dans une émission qui s'intitule « Manger le beau ». C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry et Chloé Bousquet, avec aujourd'hui à la technique Bruno Mourlan. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public.